Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission enregistrée hier après-midi et que vous pourrez réécouter et podcaster sur notre site franceculture.fr. Il y a un mois, nous faisions le constat dans cette émission qu'après avoir été quelque peu mise de côté, crise et austérité oblige, la croissance était de nouveau à la mode, mieux revendiquée par l'ensemble des décideurs, qu'ils soient politiques ou économiques. Croissance par la relance de la demande, par une politique de l'offre, par la poursuite des efforts budgétaires. Tous ne mettaient certes pas la même chose derrière ce mot valise, mais tous en parlaient désormais comme d'une évidence. À la suite de cette émission, un de nos auditeurs, il se reconnaîtra sans doute, postait un commentaire sur notre site, nous faisant remarquer que si en effet le mot croissance avait connu le purgatoire, le véritable mot tabou était celui de décroissance. Pourtant, ajoutait-il, il faudrait parler largement de ce thème car il est probable que la décroissance arrivera tôt ou tard. Alors, mot tabou, la décroissance a pourtant connu son heure de gloire à la fin de la précédente décennie, promue notamment en France par Yves Cochet et Serge Latouche, lequel témoignait à l'époque d'un véritable intérêt du public, voire de certains médias, pour cet autre horizon dans la foulée de la double crise économique et écologique. Les temps semblent avoir radicalement changé depuis. Ce soir, nous avons donc choisi de décaler notre regard sur la crise actuelle. La croissance et la décroissance, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux économistes. Philippe Paglion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Harvard et à l'École d'économie de Paris. Vous avez fait partie de la Commission pour la libération de la croissance française, connue également sous le nom de Commission Attali. Le rapport avait été remis en 2008. Vous avez co-signé un rapport un petit peu plus récent, c'était il y a un an, pour le Conseil d'analyse économique, Crise et croissance, une stratégie pour la France. Vous êtes auteur, entre autres, de Repenser l'État, publié au Seuil en 2011 et écrit avec Alexandra Roulet. J'en aurais fini des présentations. On pourrait continuer comme ça un bon moment, mais vous avez également appelé avec d'autres économistes à voter François Hollande, que vous conseillez sur les questions économiques. Alors, pour discuter avec vous ce soir, Christian Arnsperger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez à l'Université de Louvain en Belgique. Vous avez notamment publié votre dernier ouvrage, c'était aux éditions textuelles l'an dernier, L'homme économique et le sens de la vie, petit traité d'alter-économie. Vous prenez une remise en cause du capitalisme. Vous aurez l'occasion de nous expliquer plus en détail et plus en nuance que cela veut dire. Remise en cause du capitalisme à travers sa critique anthropologique. Vous êtes par ailleurs proche du mouvement des décroissants, même si là aussi il faudra sans doute préciser ce que l'on entend et ce que vous entendez, vous, par décroissance. Alors j'aimerais d'abord, avant justement peut-être qu'on s'intéresse à ce concept-là, qu'on regarde d'un peu plus près ce retour en force de la croissance, retour au premier plan, présenté véritablement comme un impératif. Philippe Aguillon, est-ce que d'abord vous considérez que cet impératif avait effectivement été mis de côté pendant un certain temps au nom de l'austérité ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que pour pouvoir, disons, faire face à un certain nombre de dépenses, eh bien, la croissance était quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'un point de croissance en moins, c'est des coupes budgétaires. Vous voyez, par exemple, maintenant, on se dit, on espérait une croissance de 1,7 pour 2013. Maintenant, on dit c'est 1,2. Ça veut dire qu'il y a une série de choses que l'État ne peut pas faire, par exemple, vous voyez. Parce que maintenant, le problème des déficits devient un problème important. Et on s'est rendu compte, en fait, d'une chose, c'est qu'il y a un triangle incontournable. C'est le triangle entre croissance, rigueur budgétaire et justice sociale. Et en fait, chacun des éléments de ce triangle soutient les deux autres, quoi. On ne peut pas, sans croissance, soutenir nos dépenses budgétaires dans le long terme. On ne peut pas arriver à maîtriser nos finances publiques si on ne demande pas un effort qui, pour être accepté, doit être partagé, d'où l'importance de la justice sociale. Et la justice sociale est évidemment un élément qui génère la croissance et la confiance. Donc, si vous voulez, ces trois éléments-là sont très interdépendants et on se rend compte de ce que ça veut dire, un demi-point de croissance en moins, ça veut dire des coupes, quoi. Des coupes dans la santé, dans d'autres choses. Et donc, si vous voulez, c'est très concret, quoi.
Mais comment se fait-il, Philippe Aguillon, que cette notion qui est aujourd'hui présentée comme une évidence ait finalement été mise un peu à l'écart pendant un certain temps? Comment est-ce qu'on peut ignorer une évidence d'une certaine manière?
Oh, je sais pas, c'était vraiment... Il y a eu une période, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, où il y avait une forte croissance. C'était une croissance de rattrapage, je dirais. Donc on avait des institutions, des politiques qui permettaient de rattraper. Et puis cette croissance s'est épuisée vers la fin des années 70, milieu fin des années 70, et depuis on s'est mis à croître moins vite. Et donc, si vous voulez, le problème de la croissance est devenu important quand on a épuisé les forces motrices de la période des 30 Glorieuses. Parce que le manque de croissance, c'est aussi manque d'emploi. C'est pas, les deux vont ensemble. Et on s'est rendu compte que avoir du chômage, peu de perspectives de croissance, ça génère un certain nombre de problèmes. Et je crois que c'est pour ça que maintenant, on se dit il faut retrouver un nouveau souffle dans la croissance, mais avec des nouveaux ressorts.
Christian Hansperger, alors parmi les nombreux décideurs qui utilisent le mot croissance ces derniers temps, je vais vous en citer un. C'est le président de la Bundesbank, donc la banque d'Allemagne, Jens Weidmann, qui disait ceci il n'y a pas très longtemps dans la presse. « La croissance est toujours une bonne chose, mais être favorable à la croissance, c'est comme être partisan de la paix dans le monde. Le vrai débat, c'est quel chemin pour une croissance durable ?» Lui aussi présente la croissance comme une absolue évidence pour la bonne marche de l'économie. Pourquoi est-ce que c'est une évidence? Est-ce que ça doit en être une?
Alors, écoutez, je pense que de but en blanc... Et ça en étonnera peut-être certains, mais je dirais oui, évidemment. C'est une évidence parce que, je vais peut-être avoir l'air de prendre les choses de haut, mais c'est parfois nécessaire, je pense que dans le système économique dans lequel nous sommes, il faudrait beaucoup de temps pour en décliner toutes les caractéristiques, mais appelons-le, si vous voulez bien, capitalisme globalisé. Il est clair que dans ce système-là est inscrit un impératif de croissance. Philippe Aguillon l'a parfaitement rappelé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Si on veut effectivement tenir une série de priorités qui sont en fait, étant donné la dynamique du système dans son ensemble, notamment l'aspect de concurrence et de constante poussée d'accroissement de productivité qui est inscrite dans ce système, on est obligé... effectivement, de faire de la croissance, parce qu'on ne peut pas à la fois augmenter l'emploi, augmenter les dépenses sociales et accroître la productivité et être compétitifs tous en même temps sur un marché mondial dans lequel on se court les uns après les autres. Bon, c'est un système dans lequel, effectivement, et il est naïf de penser autrement, je pense, la croissance, alors il faut différencier, est-ce que c'est la croissance du produit, de l'output, comme on dit en économie? Est-ce que c'est la croissance du transit en matière? Ça, c'est un autre problème, mais qui est souvent concomitant. Bref, la croissance comme espèce de principe vital et organisationnel du système économique capitaliste, c'est effectivement une réalité incontournable. Du coup, se pose la question, voulons-nous ce système-là? Il a énormément d'avantages. Il commence à montrer une série d'inconvénients, on devra en parler tout à l'heure, notamment en termes écologiques. Ou bien, voulons-nous progressivement créer une transition vers un autre système? Je n'ai plus envie de l'appeler d'un nom particulier, parce que ça marque tout de suite. Et c'est un système qui émergera de toute façon. Si quelque chose émerge, ça émergera. On ne peut pas le prévoir exactement, ni faire un plan. Mais c'est ça la question. Il y a une question de prise en main de notre destin collectif, et c'est au niveau mondial que ça va devoir se jouer, pour savoir si les paramètres dans lesquels nous jouons pour l'instant sont ceux que nous voulons conserver. Quand le président de la Bundesbank parle finalement quand même subrepticement de croissance durable, il met le ver dans le fruit, si j'ose dire.
Cette obsession de la croissance, vous diriez que c'est aussi la marque du capitalisme sur notre façon de penser, c'est-à-dire qu'on ne sait pas penser autrement qu'à travers ces termes-là aujourd'hui?
Oh, je crois que vous savez, la croissance comme principe d'organisation de la vie est quelque chose de tout à fait normal. Et en ce sens-là, c'est bien évident que philosophiquement, la croissance est un principe dont aucune vie créative, aucune existence sensée, individuel ou collectif, ne peut se passer complètement. Le tout, c'est de savoir jusqu'où croit-on. Il n'y a jamais de croissance éternelle dans la nature. Il y a des seuils, il y a des plafonds. Et Par ailleurs, que fait-on croître? Et là, on est à peu près partout et nulle part actuellement dans la réflexion.
Philippe Aguillon.
J'ai voulu dire, en fait, j'ai l'impression que nous sommes très proches, en fait. Vous avez voulu nous inviter tous les deux, c'est très sympathique.
Et pas
en
forcément fait, pour vous opposer, mais
en
fait,
parce que
des
je
nuances.
Crois qu'il y a un problème sémantique. Parce que si vous voulez, en fait, maintenant, je crois que la question n'est peut-être pas tant de savoir s'il faut de la croissance ou pas, mais c'est effectivement, c'est comment faire ou ne pas faire de la croissance. Et par exemple, il y a eu tout ce débat en France sur les indicateurs de bien-être. Donc le groupe Stiglitz-Fitoussi Sen qui disait oui, le PIB c'est important, mais il y a également les inégalités, mais il y a également l'environnement. Et en fait, je crois que tout ça en fait, est recoupé par une notion plus générale qui est celle, à mon avis, de croissance durable, mais de croissance soutenable, mais dans un sens plein du terme. C'est-à-dire que je pense, par exemple, s'il y a trop d'inégalités dans un pays, eh bien, ça porte tort à la croissance et ça délite la société. Si vous avez des problèmes environnementaux qui ne sont pas maîtrisés, également, ça crée des grands problèmes. Vous n'investissez pas dans l'éducation, la criminalité augmente. Le débat maintenant, c'est de savoir comment on fait face. La croissance, elle a des bons côtés, mais elle a des mauvais côtés. Elle crée l'inégalité, elle détruit des emplois, parce que la croissance, c'est des nouveaux emplois qui remplacent des anciens emplois. C'est ce qu'on appelle le processus de création destructrice de Schumpeter. Et si vous voulez, la question, c'est comment vous régulez ça. Et il y a des pays qui n'y arrivent pas bien ou qui ne sont pas intéressés à le faire. Monsieur Cameron en Angleterre, ça n'intéresse pas que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Ça ne lui pose aucun problème. Qu'il y ait un délitement social en Angleterre ne lui pose aucun problème. Mais il y a d'autres pays, par exemple les pays scandinaves ou un certain nombre de pays européens, qui se sont posés ce problème, qui ont dit la croissance, oui, mais il faut l'environnement, mais il faut redistribuer, il faut donc la maîtrise des inégalités, etc. Et donc, si vous voulez, moi, je crois que nous ne sommes pas très loin, parce que l'idée, c'est de dire qu'il faut enrichir la notion de croissance, c'est-à-dire de dire, on veut une croissance comment? Et est-ce qu'on veut une croissance dans la pollution et l'inégalité, et avoir une espèce de capitalisme sauvage, ou est-ce qu'on veut avoir des sociétés de marché où on reconnaît que le marché a une force, mais qu'il faut la réglementer, et pour arriver à soutenir la croissance dans ces dimensions-là? Et moi, je crois que le débat, c'est celui-là, en fait.
Vous n'êtes pas très loin quand Christian Arensperger nous explique qu'effectivement, le capitalisme a besoin de croissance pour exister. Si j'ai bien compris, c'est sans croissance, en gros, il n'y a pas de capitalisme. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'à nous dire que c'était le modèle idéal d'organisation de la société. C'est peut-être là qu'il peut y avoir quelques divergences.
Il me semble, oui. Mais je pense que c'est là la fécondité actuelle. Comme vous le savez, le mot crise peut vouloir dire à la fois un moment de négatif, de doute et de peur, mais aussi un moment d'opportunité. Et l'opportunité actuellement, c'est pas de savoir si d'un coup on va pouvoir, comme le veulent peut-être encore quelques vieux marxistes, passer mécaniquement comme ça vers un autre système qu'on appellerait Dieu sait comment. Il n'y aura pas d'autre système d'un coup qui va émerger. En revanche, à mesure que les contradictions internes de la notion de croissance, qui sont mises en évidence, notamment effectivement par, vous l'avez très justement rappelé, M. Aguillon, tout le débat sur les indicateurs alternatifs de richesse, à mesure que ces tensions internes au modèle de croissance, et je dirais même à la notion de croissance qui est la nôtre dans le capitalisme globalisé, se manifestent de plus en plus, apparaissent au grand jour et s'imposent à nous, ne serait-ce que par le changement climatique, par la raréfaction massive des ressources naturelles qu'on ne va pas pouvoir éluder très longtemps encore, eh bien, va se poser quand même la question de savoir vers quelle galaxie ou ensemble de nouveaux principes d'organisation économique et de nouveaux critères d'évaluation de ce qui importe dans une société, allons-nous nous diriger? Et là, moi, je ne veux pas faire le devin, je n'ai aucune, très franchement, aucune idée prospective de savoir exactement ce qui va émerger de là. Il me semble cependant que quand on regarde ce qu'on appelle, je trouve vraiment abusivement pour l'instant, la mouvance de la décroissance, je voudrais m'en expliquer un moment ou un autre, parce que je trouve que c'est un mot qui est vraiment, alors là, commence à desservir fortement la cause, hein. Mais dans cette mouvance de groupements de citoyens, voire de régions qui essayent vraiment d'adopter, parfois par nécessité, des nouveaux modèles de création de richesse, voire de nouveaux critères de ce qu'est la richesse, eh bien, il va probablement émerger quelque chose qui ne ressemblera au fur et à mesure du temps plus tellement au capitalisme industriel, même verdi, que l'on nous propose aujourd'hui comme étant le modèle de la croissance durable.
Mais Christian Hartzberger, avec l'impératif de croissance qui est désormais omniprésent dans les discours des décideurs politiques notamment, est-ce qu'on ne se prive pas justement de cette réflexion pour cette galaxie vers laquelle nous pourrions tendre ? Vous évoquez il n'y a pas très longtemps dans une tribune qui a été publiée par Libération la diversion que crée la crise économique qui finalement nous détourne peut-être un certain nombre de réflexions.
Oui, je le pense, c'est-à-dire que je tiens vraiment à dire ça, je le dis sans pointer le doigt vers je ne sais quel groupe de gens qui seraient mal intentionnés ou que sais-je, mais je pense que nous sommes pris en otage par le système même qui nous a porté pendant des générations, et il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est-à-dire nous sommes pris en otage de telle sorte que, effectivement, le sauve-qui-peut actuel, quand on regarde les problèmes de la Grèce, de l'Espagne, de l'Irlande, tout ce que ça peut entraîner au niveau européen et mondial, il est bien évident qu'actuellement, là, juste pour l'instant, les gens qui réfléchissent sur des modalités alternatives de création de richesses n'ont plus tellement de vent en poupe parce qu'on est occupé à écoper l'eau dans le navire de toutes parts. Et c'est tout à fait normal, c'est dommage. Mais c'est peut-être l'une des façons dont le capitalisme, c'est peut-être un propos un peu parano, mais dont le capitalisme excelle à repousser fonctionnellement presque les alternatives en créant des espèces de crises massives qui embrigadent un peu tout le monde dans un sauve-qui-peut. Je crois qu'il y a de ça, oui.
Alors Philippe Aguillon, vous qui avez notamment donc participé à cette commission Attali pour la libération de la croissance française, est-ce que vous aviez l'impression, et vous vous intéressez toujours beaucoup à ces questions de croissance, d'être dans le sauve-qui-peut et d'être finalement l'otage d'un système dont vous arrivez avec difficulté peut-être à voir les limites?
Non, c'est évident que l'urgence, souvent, éteindre le feu, ce n'est pas les moments où vous pouvez le mieux. Mais des fois, les crises sont aussi l'occasion d'apporter des changements importants. Donc les crises génèrent des fois des changements de comportement. Et, par exemple, peut-être que comme il faut économiser, il y a des économies à faire, et bien peut-être que ça va nous obliger à changer nos modes de vie un petit peu et de dire, voilà, on peut être plus écologique, justement, jeter moins les choses et parce que, voilà, il y a un souci d'économie. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, la crise peuvent vous amener à acquérir un degré de civisme supplémentaire. Et...
C'est pas un discours qu'on entend beaucoup quand même en ce
moment. Non, mais on peut tout à fait imaginer des effets vertueux des crises. Moi je crois, si vous voulez, qu'il y a quand même des éléments d'optimisme. Et je pense que quand même cette crise a révélé qu'il y a des économies, scandinaves notamment, qui s'en sont bien sorties. Mieux que les économies plutôt anglo-saxonnes, quoi. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et c'est des économies, justement, où on a dit, voilà, la redistribution des revenus, c'est important, l'écologie, c'est important, la démocratie sociale, c'est très important, d'avoir des syndicats puissants, des employés représentés dans les entreprises, vous voyez, une vraie représentativité des employés. C'est-à-dire, c'est un peu tous les ressorts de cette société scandinave, ou d'autres pays, comme les Pays-Bas, par exemple, eh bien, ces pays s'en sortent très bien dans cette crise. Donc, si vous voulez, la crise peut permettre aussi de dire, tiens, voilà des pays qui s'en sortent bien, pourquoi ne pourrions-nous pas faire comme eux? Et eux, justement, ont essayé d'intégrer les Danois quand ils ont fait le système de flexi-sécurité pour donner la possibilité de réconcilier flexibilité sur le marché du travail et sécurité de l'emploi et formation. C'était quand même une solution nouvelle. Moi, je ne pense pas que ça sera le passage d'un système à un autre système du jour au lendemain. Je ne crois pas que ça sera comme avant. Voilà, on quitte le capitalisme et on va vers le socialisme. Ça, ces solutions-là, on sait qu'elles n'ont pas fonctionné. On sait que quand on a fait des solutions étatisées, elles ont en général donné le contraire de ce qu'on voulait. C'était l'absence de liberté, la misère, l'autoritarisme. Et donc, on ne veut pas aller. Je crois beaucoup dans l'innovation également. Je crois beaucoup que l'innovation doit être au pouvoir. L'économie de marché permet l'innovation. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'exemple où il y a eu de l'innovation sans quand même de l'économie de marché. Alors, l'innovation, c'est aussi dans les universités. C'est les chercheurs. C'est permettre la recherche fondamentale. Mais c'est aussi l'économie de marché. Le problème, c'est de la domestiquer. C'est-à-dire de prendre les bons côtés en domestiquant les côtés nuisibles. Et je crois que tout est là. Donc, comment repenser le rôle de l'État dans les économies de marché modernes? Voilà. Est-ce qu'il faut l'État minimum que prônent Cameron et les républicains américains, ou est-ce qu'il faut un État repensé qui n'est pas non plus l'État du welfare state, vous voyez, des 30 glorieuses, qui est un État plus démocratique, plus décentralisé, mais qui est quand même présent, mais qui ne nie pas l'existence des forces innovantes et des forces de marché. Voilà, je crois que là est le vrai débat maintenant.
Alors, beaucoup de choses dans ce que vient de dire Philippe Aguillon. Il y a notamment eu cette formule, il y a un effet vertueux des crises. En tout cas, il peut y avoir un effet vertueux des crises. Christian Hartzberger, ce n'est peut-être pas le cas de celle-ci.
Alors, C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Quand je parlais d'angoisse et d'opportunité, c'est effectivement ça. Alors, ça va dépendre quand même très fortement d'où on vit. Je ne pense pas que la population grecque actuellement voit ce qui lui arrive comme une opportunité. Je pense plutôt que c'est quelque chose de dramatique et d'absolument affolant qui leur arrive. Hein. Maintenant, si on pense que la crise, et je suis assez d'accord, actuelle, est une opportunité, il faut effectivement bien voir qu'on est face au défi, je suis tout à fait d'accord, de repenser la démocratie sociale. Et donc l'alternative marché-État comme deux espèces d'ennemis, elle est complètement vidée de sens. Enfin, je pense que là, maintenant, il faudrait arrêter de sans arrêt agiter ce genre de dichotomie qui n'a plus beaucoup de sens. Maintenant, si on regarde les économies scandinaves, très bien, effectivement, je vous rejoins tout à fait. Si c'est pour rester dans un capitalisme globalisé, en gros, similaire à celui que nous avons, notons bien quand même que la crise que nous connaissons est une crise, non seulement une crise qui arrête la croissance, mais une crise de la croissance. C'est le principe de croissance inscrit dans le système tel qu'il est qui a amené la crise. Ça, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Mais effectivement, tant qu'à rester là-dedans, je préfère être finlandais ou norvégien que grec ou enfin, je ne veux pas faire de... Maintenant, même si on avait un modèle scandinave généralisé, se poseraient malgré tout des questions massives sur la soutenabilité à long terme d'un capitalisme à la scandinave. Je veux dire, les questions écologiques ne sont pas effacées de la surface de la Terre parce qu'on a un État social sage et redistributeur, égalitaire, etc. Et donc, l'autre défi, à côté du fait de repenser la démocratie sociale, l'autre défi auquel nous sommes confrontés maintenant, c'est de donner un sens et d'être critique vis-à-vis d'une notion très importante que je voudrais que les auditeurs aient à l'esprit lorsqu'on discute de ce genre de questions, ce genre de croissance, c'est la notion de découplage, c'est-à-dire ce principe qu'on veut absolument essayer de faire de la croissance, disons, de la production, en réduisant perpétuellement la consommation de ressources par unité produite, avec cette idée qu'on pourra éternellement sauvegarder les emplois et l'état social, en Scandinavie par exemple, en produisant toujours plus, mais avec de moins en moins de ressources. Ce qui est, je pense, un des grands mirages, et là je crois qu'on va se séparer. Hein. Bon, alors le débat devient intéressant, un des grands mirages, innovation ou pas, mais c'est un des grands mirages de notre époque, me semble-t-il.
Est-ce que ce mirage-là nous conduit à la décroissance? Alors Christian Hansperger, là il faut déjà que vous nous disiez peut-être, et ensuite je demanderai à Philippe Aguillon aussi ce qu'il en pense, mais... Ce serait quoi la décroissance? C'est un mot qu'on a compris depuis le début de l'émission, même si on n'en a pas encore vraiment parlé, mais que vous n'aimez pas trop.
Alors, je m'explique peut-être brièvement là-dessus. J'aime pas le mot décroissance parce qu'il sonne... Bon, alors, forcément, il y a des aspects de... Il y a certains renoncements qui vont être à l'ordre du jour si on veut tenir une économie soutenable. Maintenant, le mot décroissance donne toujours l'impression qu'on est dans une espèce de mouvement... de racrapotement, de se satisfaire du moins possible, etc. Ce qui...
De retour en arrière aussi.
Voilà, de retour en arrière, d'être tous en peau de bête dans des cavernes. Hein, enfin. Et d'ailleurs, ce n'est pas évidemment ce message-là que même des gens comme Serge Latouche, qui sont assez radicaux, veulent faire passer. Il ne faut pas rigoler. Hein, bon, mais moi, je suis plutôt favorable à la notion d'une économie stationnaire, au sens technique du terme, c'est-à-dire une économie où, à un certain moment, et c'est l'un des rôles de la démocratie sociale à mon avis, où à un certain moment, si possible au niveau mondial, parce que c'est le seul niveau auquel le mot décroissance a réellement un sens, c'est-à-dire l'enveloppe est fermée au niveau mondial, il n'y a rien à faire, l'enveloppe écosystémique, elle est fermée, une économie donc dans laquelle on fixerait une sorte de seuil à ne pas dépasser de capital disponible pour la production et voire de volume produit. Et puis, bien sûr, on redistribue ça le plus égalitairement possible. Donc, je suis d'accord pour le modèle scandinave, absolument. Mais avec une limite supérieure qui fait qu'après ça, il faut se débrouiller pour simplement renouveler de manière intelligente la valeur du capital que l'on transmet à la génération suivante et ne plus essayer obsessionnellement de le faire croître d'une génération à l'autre.
Philippe Aguillon, oui. Décroissance, économie stationnaire, oui. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Malthus. C'est le retour à Malthus. On redécouvre Malthus, quoi. Malthus, c'était cet économiste qui disait, voilà, l'économie, c'est une population qui travaille sur une quantité de terre. C'était d'un facteur fixe. Et donc, il ne peut pas y avoir de croissance à long terme dans une économie comme ça, parce que les ressources sont épuisables. En fait, c'est le modèle de Malthus. Et c'est où on croit dans un monde malthusien, où on croit qu'au contraire, on peut sortir de la trappe malthusienne par l'innovation. Vous voyez, l'innovation, ce qui est formidable avec l'innovation, c'est que l'innovation vous permet de trouver des nouvelles sources d'énergie. Elle vous permet d'innover propre. Elle vous permet d'économiser de plus en plus les ressources, pas seulement parce que vous produisez plus en utilisant moins, parce que vous produisez autre chose. Ça vous permet de produire de l'utilité. Mais avec des services, avec des modes d'organisation nouveaux, on consommera des biens immatériels qui ne sont pas polluants. Et ce que l'État peut faire, c'est de donner des incitations pour que l'innovation aille dans cette direction. Donc je crois beaucoup dans un rôle de l'État pour diriger l'innovation vers ce qui ne pollue pas trop, vers ce qui n'épuise pas trop les ressources épuisables, vers ce qui permet d'en découvrir de nouvelles. Mais si vous voulez, l'idée, c'est quand même de dire, moi, Malthus, je pense que c'est dépassé. C'est-à-dire que l'innovation vous sort de Malthus. Cela étant, je pense qu'effectivement, on ne veut pas avoir un désastre environnemental dans les 10 ans ou 20 ans qui viennent. Et donc, pour ça, eh bien, on doit diriger l'innovation vers le vert, vers quelque chose qui permet, aux contraintes à la croissance, d'être soutenable. Mais donc, moi, mon monde est un monde qui n'est pas un monde fini, parce que l'innovation recule toujours les limites du possible. Mais c'est pour autant un monde où l'État doit être responsable et se dire, mais attention, on peut être inondé parce qu'il y aura le réchauffement climatique, sera excessif, etc. Il faut absolument empêcher ça. Et donc, il faut que je dirige l'innovation. Elle ne va pas aller d'elle-même là où il faut. Je crois dans un monde d'innovation dirigée, pas dans un monde de production finie.
Christian Ratzberger, vous êtes un malthusien.
Ah, ça c'est évidemment le mot choc entre économistes. Alors bon, je suis prêt à admettre qu'il y a évidemment des aspects éventuellement malthusiens dans la conception que je viens de présenter. C'est pas le même modèle, hein. Donc c'est pas un modèle où on oppose simplement la terre qui est fixe ou une production qui croît de manière linéaire avec une population qui croît de manière exponentielle. On sait maintenant, et ça, il faut être aveugle pour ne pas l'avoir vu, qu'effectivement l'innovation technologique a permis très longtemps le dépassement de cette contrainte-là. Maintenant, on est dans un autre cadre, me semble-t-il. C'est plus la Terre comme facteur fixe, c'est la biosphère dans son ensemble. Et là, évidemment qu'on est à moyen terme maintenant dans un débat, et vous l'avez très bien dit, on croit ou on ne croit pas. On croit à ça ou on croit à ça. On est...
Du verbe croire, pas du verbe croître.
Absolument, oui, sans la croyance, oui. Et c'est pour ça que dans un colloque à Bruxelles, j'avais entendu certains militants dire ce qu'il faut avant tout, c'est pas seulement décroître, c'est surtout décroire. Hein. Décroire dans ce modèle que vous venez de présenter très brillamment et très correctement. Je pense que cette idée du découplage infini, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il faut bien voir qu'on a en tête pas seulement un découplage provisoire avec une innovation qui, à tout un temps, va permettre de réaliser ce que vous avez dit, mais ça doit se poursuivre ad aeternam. Enfin, je veux dire, avec une population mondiale qui galope. Bon, alors on sait qu'elle va peut-être plafonner elle-même, enfin bon. Mais si on regarde les chiffres du GIEC, si on regarde les chiffres de l'empreinte écologique, c'est-à-dire qu'on consomme actuellement en termes de ressources une planète et demie, donc on est en train déjà de manger le capital naturel de la planète chaque année, hein. Il me semble inéluctable que ce processus de découplage doive s'arrêter un moment. C'est ça le problème. C'est pas de savoir si on est pour ou contre l'innovation. Moi, je suis absolument favorable à tous les efforts de découplage possibles entre consommation de ressources et production, bien évidemment. Le problème, on en a deux. C'est qu'on observe que malgré tous les gains, et qui sont massifs pour l'instant, en d'efficience énergétique, le transit de matière continue à augmenter. Alors pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le capitalisme globalisé dans lequel nous sommes, a fortiori avec des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, des pays émergents où le modèle consumériste explose pour l'instant, eh bien on a au niveau mondial ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire que ce qu'on gagne en efficience énergétique par unité produite, on fait plus que le perdre dans le fait que le nombre d'unités produites, consommées, explose pour l'instant. Donc il y a un problème systémique qui n'est absolument pas résolu par l'innovation, si vous voulez.
Philippe Aguillon, en 2008, on nous promettait justement un changement de système. Le capitalisme ne serait plus comme avant. On voit bien qu'à la faveur de cette crise, les solutions qui sont recherchées, et on peut comprendre qu'effectivement, dans un certain nombre de pays où la dette est importante, où le chômage est important, l'inflation qui, par endroits, reprend, on ait besoin de faire appel à cette croissance. Mais malgré tout, pourquoi est-ce que le système et ceux qui le font vivre semble avoir autant de mal, selon vous, à reprendre conscience, finalement, qu'il y a sans doute énormément de choses à changer.
Oui, parce qu'évidemment, les périodes de crise et la crise, d'un côté, peut inciter des pays au changement, et puis en même temps, on est très la tête sur le guidon, quoi. Et donc, par exemple, c'est vrai que par exemple, toute la problématique réchauffement climatique est passée un peu au second plan depuis la crise financière. Mais pour autant, je pense que quand même, par exemple, vous voyez, je vais être très concret, il y a toute l'idée de la zone euro. Comment faire repartir la zone euro? Et ben maintenant, il y a une des grandes idées, c'est de dire un des secteurs très porteurs de croissance dans la zone euro, c'est l'énergie. Donc il faut maintenant investir beaucoup dans les énergies nouvelles. C'est un secteur porteur de croissance. Plutôt que d'investir tout dans le transport et infrastructures, on a beaucoup trop fait dans pays comme l'Espagne ou pays d'Europe du Sud, eh bien l'énergie, c'est un secteur beaucoup plus porteur de croissance. Et je pense effectivement également que je vois tout à fait les pays d'Europe disant nous on va faire des voitures propres et puis on va mettre des tarifs carbone. C'est-à-dire que moi je pense qu'il va falloir, c'est pas du protectionnisme, mais il va falloir maintenant quand on traite avec la Chine ou les pays émergents, dire vous si vous devenez des paradis polluants comme on dit, eh bien on va plus laisser faire. C'est que nous on va se mettre à produire du vert. Et si vous voulez importer, ou si des multinationales maintenant se déplacent dans des paradis polluants pour réexporter vers nous des produits fabriqués de manière polluante, eh bien nous disons non, on mettra des tarifs carbone. Je pense que ce genre de politique vont se développer. Et donc à la fois, on permettra la croissance chez nous, et en même temps, on permettra, ça sera une bonne chose pour l'environnement. Vous voyez, c'est dans cette mesure-là que je crois que la crise peut générer des solutions qui également répondent aux questions qu'on posait sur l'environnement et sur la soutenabilité de la croissance. Je voulais dire juste un mot pour terminer. L'économie sans innovation. Vous voyez, je crois qu'une économie qui ne croit pas, c'est une économie qui n'innove pas. Il y a eu des cas d'économies qui n'ont pas cru. Par exemple, l'Albanie était une économie qui n'avait pas de croissance. Les pays où il n'y a pas de croissance dans le monde, on les connaît. C'est des pays autoritaires. Il n'y a pas un seul exemple de pays démocratique où il n'y ait pas de croissance et où il n'y ait pas d'innovation. C'est-à-dire que la non-croissance, et si vous voulez, en général, a toujours conduit vers une forme d'autoritarisme, parce que l'innovation est un trait naturel, on est inventif, on veut s'exprimer. Empêcher l'innovation, c'est empêcher la libre expression, quelque part. Vous voyez, je crois que c'est un niveau très fondamental. Une société démocratique est une société qui génère de l'innovation. Le problème, c'est de canaliser l'innovation vers quelque chose qui est pour l'environnement, qui ne crée pas d'inégalités excessives, etc. Je crois que c'est beaucoup plus ça que de dire, tout d'un coup, je me dis maintenant, stop, je ne crois plus, j'innove plus. Ça, je crois que c'est irréaliste.
Alors ça, Philippe Aguillon, c'est si on se place sur le strict plan de l'économie politique, si on fait comme tout à l'heure Christian Ansperger, considérant que l'économie, c'est aussi la biosphère, c'est une sorte de corps vivant, peut-être qu'on peut considérer que la croissance a ses limites. Bonsoir Julie Gacon.
Bonsoir.
Oui, vous avez eu la chance, la semaine dernière, de rencontrer un éminent spécialiste des questions de croissance, voire de décroissance. Il est américain, il était en visite à Paris. Je vous laisse nous dire son nom.
Oui, c'est l'auteur d'un rapport dont le titre était « The Limits of Growth », les limites de la croissance. Christian Ansperger, je vois que vous connaissez ce rapport. 40 ans plus tard, son auteur en regrette le titre. C'est Denis Meadows qui était donc la semaine dernière de passage à Paris pour présenter la version française de ce texte publié en mars 1972 à la demande du Club de Rome, think tank basé en Suisse. C'est en sa qualité de scientifique que Denis Meadows a participé à l'écriture de ce texte qui envisageait les conséquences possibles du maintien de la croissance économique sur la longue durée. Texte qu'on peut donc désormais lire en français aux éditions Rue de l'Échiquier. Pourquoi en regrette-t-il le titre « Les limites de la croissance » Eh bien parce que la vraie question, dit-il aujourd'hui, c'est davantage la dynamique de cette croissance. Qu'est-ce qui la cause et quelles seront les conséquences de sa rencontre avec les limites physiques du système? C'est donc bien le scientifique qui parle. Et pour avoir la chance de le rencontrer, eh bien il y avait une condition, que ce soit dans un taxi en direction d'une chaîne d'information en continu où Denis Meadows venait répéter son credo. Je crois qu'il est extrêmement important de rappeler qu'il existe plusieurs types de croissance. Certains sont bons, d'autres sont néfastes. Si un pays peut maintenir une bonne croissance, il va prendre de l'ampleur. Mais s'il est sur un mauvais modèle, ça va le détruire. Je fais parfois la comparaison avec un enfant. Quand vous avez un bébé, pendant les 5, 10, 15 premières années, vous voulez le voir grandir physiquement. Vous êtes très content qu'il grandisse, qu'il change tous les ans, vous le montrez aux voisins, vous lui dites « Regardez mon fils, comme il est beau, comme il a grandi ». Mais si, passé 20 ans, il continue à grandir, vous ne trouverez plus ça très normal. Vous serez inquiet et vous n'irez plus crâner devant votre voisin. Bon, donc vous ne voulez pas de la croissance quantitative, mais une croissance qualitative. Vous ne voulez plus que votre fils grandisse encore, mais qu'il étudie les langues étrangères, le piano, qu'il apprenne à être un bon mari. Dans nos pays, c'est pareil. Nous devons comprendre qu'il faut passer d'une croissance quantitative à une croissance qualitative. Pour des pays qui, comme la Chine, ne travaillent qu'à une croissance quantitative, c'est un suicide. C'est certain. Quand nous avons écrit notre rapport en 1973, notre programme informatique montrait que nous aurions encore 40 années de croissance à peu près. Nous ne nous attendions pas à beaucoup de changements dans les 4 décennies à venir. Et globalement, on ne s'était pas trompé. Mais on avait aussi dit qu'entre 2010 et 2030, la croissance allait s'arrêter. Pourquoi ? Parce que les pressions négatives contre la croissance deviennent égales aux pressions positives. Les pressions positives, ce sont les politiques de relance, les entrepreneurs qui investissent dans les nouvelles technologies, mais aussi les familles qui s'agrandissent, tout simplement. Il y a beaucoup de forces qui soutiennent la croissance. Pourtant, elles doivent être relativisées. Par les changements climatiques, par la crise de l'euro, la destruction des terres agricoles, bref, des pressions négatives qui vont arrêter la croissance. Et ces pressions négatives grandissent en même temps que les pressions positives. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Donc, quand on regarde le schéma de la croissance, c'est une courbe qui descend. C'est comme dans les tremblements de terre. À San Francisco, par exemple, vous savez qu'il va s'en produire un, mais vous ne savez pas quand, ni quelle sera sa puissance, ni où exactement il va se produire. C'est quelque chose comme ça. Je sais que les choses vont se passer ainsi, je ne sais pas exactement quand ni de quelle manière, mais ça va arriver.
Christian Hansperger, une réaction rapide s'il vous plaît, ce que vous venez d'entendre de Denis Meadows.
Bien sûr, tout à fait d'accord sur la croissance qualitative, justement. C'est là que l'innovation doit se situer. Moi, je suis complètement opposé à l'idée qu'on doit limiter l'innovation à la technologie. Et donc, l'innovation sociale et l'innovation anthropologique, ça existe. Donc, il y a deux domaines dans lesquels on est en train d'innover pour l'instant, qui sont très importants. Les monnaies complémentaires qui permettent de créer d'autres types de monnaies qui ne sont pas créatrices de croissance matérielle obligée, et l'économie sociale et solidaire qui est une innovation, un vivier d'innovation sociale massif qui est tout à fait compatible avec un arrêt de la croissance dans nos pays.
Et Philippe, à Lyon, peut-être ne le verrons-nous jamais de notre vivant, mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que dans le principe même de croissance, il y a forcément d'inscrit la fin de la croissance?
Je ne crois pas, non, je ne pense pas. C'est-à-dire que je crois que la croissance, c'est l'innovation, et l'innovation change de nature. C'est-à-dire quand vous êtes la Chine, et que, puisque l'exemple de la Chine était mentionné, que vous êtes en rattrapage, vous avez un certain type de croissance. La priorité, c'est d'élever le niveau de vie de votre population, de les sortir de la pauvreté. Je veux dire, quand vous êtes un pays déjà développé, là, vous passez au qualitatif, et il y a une demande, d'ailleurs, pour ces produits. Et l'État peut influencer la demande en incitant à la consommation, en rendant plus cher certains produits que d'autres. Et moi, je suis d'accord avec ce que disait mon collègue, c'est-à-dire que l'innovation est autant dans les modes d'organisation, dans des nouveaux produits, dans des services, et on peut diriger l'innovation. On peut encourager certains types d'innovation qui économisent sur l'utilisation des ressources rares, mais dire que c'est la fin de la croissance, non. Il y aura croissance, parce que la croissance, c'est la croissance de l'utilité, c'est la croissance des niveaux de vie. On n'arrêtera jamais le progrès dans la médecine.
il y a des choses qui ont une fin, c'est par exemple cette émission. Merci beaucoup Philippe Aglion et Christian Hansperger d'y avoir participé. Je rappelle vos ouvrages respectifs. Christian Hansperger, L'homme économique et le sens de la vie, petit traité d'alter économie chez Textuel. Philippe Aglion, Repenser l'État pour une nouvelle social-démocratie de l'innovation, publié au Seuil. Un grand merci à l'équipe du Grain, Julie Gacon, Fanny Richer, Céline Leclerc, notre stagiaire Mélodie Lucchesi, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique ce soir Bernard Laniel. On retrouve tout de suite le rendez-vous et c'est avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.